Ok, on reprend. Comme d'hab, quand vous voulez. Alors, j'ai plein de questions sur les TD, l'organisation des TD, etc. Je comprends votre inquiétude. En plus, là, clairement, vous n'êtes pas tombé sur la meilleure année à cause de la cyberattaque de Saclay. Normalement, encore une fois, j'aurai là à disposition mercredi matin en amphi toutes les fiches de TD, tous les plans de cours à vous distribuer. Je vous ferai un topo sur la façon dont ça fonctionne à ce moment-là. Si par malheur il advenait qu'elles ne soient pas disponibles, les fiches de TD, je vous expliquerai quand même, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour que vous y ayez accès au moins en numérique. Alors je ne vous dis pas que c'est l'idéal, hein, de ne pas avoir le fichier papier, mais au moins vous les aurez. Est-ce que vous avez un groupe entre vous, pas un groupe dans lequel je serai moi, c'est pas ça. Un groupe de discussion, quelque chose où vous êtes tous inscrits en dehors des réseaux de la fac. Alors certains disent oui, d'autres disent non. Est-ce que je peux vous demander, moi c'est pour vous, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Essayez de discuter entre vous pour intégrer dans ce groupe-là l'ensemble des étudiants qui sont présents en amphi. Et de désigner, j'en sais rien moi, trois personnes pour qu'on prenne pas de risque, trois personnes entre vous qui me donneront leur mail mercredi. Et comme ça, à la limite, je peux au moins envoyer les slides. Les fichiers audio, ça va être un enfer, hein, mais à minima, je peux envoyer les slides et les fiches de TD avec le plan de cours sur trois adresses que vous répercutez ensuite sur le groupe. Mais il faut que tout le monde soit inscrit. C'est clairement pas la bonne solution, hein, mais là, je fais avec ce que j'ai, hein, c'est-à-dire que si j'ai pas e-campus. J'ai pas de moyen de vous filer tout ça. Donc, c'est une solution d'attente. Essayez d'en discuter entre vous et faites-moi plaisir. Inscrivez le maximum de personnes de l'amphi possible. Hein. Il faut que tout le monde soit sur ces groupes-là. Ok, donc je vous dis, je vous expliquerai le fonctionnement des TD. Il y aura du travail à faire pour la première séance. Hein. Donc, je vais briefer mes chargés de TD sur le fait que vous aurez eu tardivement vos supports. Mais il va y avoir du travail à faire dessus. Et évidemment, il y a un certain. Un certain nombre de points à identifier sur le fonctionnement des TD qu'il faudra qu'on cadre mercredi matin. Je pense qu'on commencera par ça. Ok, donc ceci étant précisé, on a terminé avec les traités. On passe maintenant à la question du droit de l'Union européenne. J'apporte d'abord une précision de vocabulaire absolument essentielle. Pendant très longtemps, quand on a parlé du droit européen, du droit de l'Union européenne, on l'envisageait sous le terme de droit communautaire. Et d'ailleurs, ça se retrouvait dans certaines institutions. Vous allez faire, si ce n'est pas déjà commencé, de l'IAJE. Et vous allez étudier notamment au niveau des institutions européennes, j'imagine, ce qu'on appelle la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire la juridiction supérieure dans l'Union. Bah, la Cour de justice de l'Union européenne, avant, elle s'appelait la Cour de justice des communautés européennes. Et on parlait de droit communautaire. Cette expression-là, vous la trouverez dans certains articles un peu anciens, dans certains. Elle a plus cours aujourd'hui. On ne parle plus de droit communautaire, on parle de droit de l'Union. Donc faites bien attention à cette bascule-là. Ça date du traité de Lisbonne, hein, donc 2007, à un moment maintenant. Depuis cette date-là, on n'évoque plus le droit de l'Union sous le terme de droit communautaire. Si vous le trouvez, c'est des anciennes sources. Ceci étant précisé, quelques mots sur la construction européenne. Là encore, je ne fais pas de cours de droit de l'Union, hein, c'est juste pour vous donner le cadre un peu de la façon dont ça fonctionne. La construction européenne, elle a été initiée par la Communauté économique européenne, donc la CEE, avec le traité de Rome en 1957. C'est le grand traité fondateur de l'Union, le traité de Rome. Et à ce moment-là, vous avez six pays. Ne les apprenez pas par cœur, je m'en fiche, c'est juste pour que vous ayez conscience du développement qu'a été celui de l'Union sur 70 ans. Donc, six pays au départ, France, à ce moment-là, la République. À ce moment-là, la République fédérale d'Allemagne, puisqu'on est en 57, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Donc France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Belgique. Et puis après, vous avez des étapes successives dans la construction. Le traité de Rome, c'est le traité fondateur, et puis vous avez des traités par la suite qui vont augmenter ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Alors, je suis très très loin d'être exhaustive. Parmi les traités principaux qu'on peut citer, il y a le traité de Maastricht en 92. Il y a le traité de Nice avant. Donc, il y a Maastricht en 92. Il y a le traité de Nice en 2002. Et il y a le traité de Lisbonne dont on vient de parler en 2007. Alors, quelques mots sur les institutions, en précisant encore une fois que, faute de temps, je n'évoque pas les juridictions, puisque vous avez un cours dédié en IAJE. Je me concentre sur les institutions, et notamment les institutions qui prennent part à l'élaboration des règles. Vous avez trois institutions centrales auxquelles il faut ajouter le Conseil européen. Les trois institutions centrales, c'est la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Alors, quelques mots sur chacune. D'abord sur la Commission européenne. La Commission européenne, son rôle, il est central parce que c'est elle qui a ce qu'on appelle le monopole de l'initiative législative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le monopole de l'initiative législative ? Ça veut dire que c'est elle, c'est sa compétence exclusive, elle est la seule compétente pour lancer des réflexions qui, le cas échéant, peuvent aboutir à l'adoption d'un texte. C'est elle qui lance les discussions. Elle a aussi un certain nombre de pouvoirs exécutifs dans des domaines comme le droit de la concurrence ou le commerce extérieur. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la Commission européenne, c'est le principal organe exécutif au niveau de l'Union. Il y a un organe exécutif, c'est la Commission européenne, deux organes législatifs, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen. On va voir que le Conseil européen, c'est différent. Donc, ce qu'il faut revenir sur la Commission, c'est son rôle en matière d'initiative législative, sa compétence exclusive en matière d'initiative législative, et le fait que c'est le principal organe exécutif de l'Union. Et c'est elle qui préside les comités chargés de l'application au droit de l'Union, mais... Vous verrez ça en droit de l'Union européenne, ici ça ne nous intéresse pas tellement. Ensuite, vous avez le Conseil de l'Union européenne. Donc, c'est également une institution européenne, évidemment. Et c'est donc le Conseil de l'Union, l'organe législatif, au même titre que le Parlement. On vient de dire à propos de la Commission, c'est elle l'organe exécutif. Vous avez en parallèle deux organes législatifs. Le Conseil de l'Union européenne et le Parlement, dont je vous parlerai dans un instant. Évidemment, ce Conseil de l'Union européenne, il représente l'ensemble des États membres, il y a des réunions de ministres, etc. Et puis, vous avez des présidences tournantes pour chaque mois. Donc, il a une fonction législative. C'est pour ça que quand vous allez lire des directives, par exemple, et je vous conseille vivement d'aller regarder à quoi ça ressemble. Vous tapez n'importe quelle directive sur Google, peu m'importe le sujet, allez voir comment ça se présente. Mais quand vous avez des directives dont on parlera dans un instant, vous allez voir que les directives, leur appellation générique, c'est directive du Parlement et du Conseil de telle date sur tel thème. Parce que le Parlement et le Conseil sont les deux organes législatifs. Voilà. Attention à la sémantique. Le Conseil de l'Union européenne est différent du Conseil européen dont je vais vous parler à l'instant, et les deux sont aussi différents du Conseil de l'Europe. Ouais, les juristes, ils aiment bien se compliquer la vie comme ça. Vous avez trois entités distinctes. Le Conseil de l'Union européenne, le Conseil européen, le Conseil de l'Europe. Question toute bête, pourquoi j'ai pas mis mon Conseil de l'Europe sur mon schéma ? Parce que le Conseil de l'Europe ne relève pas, contrairement à ce que son nom indique, de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, il va relever du petit C que vous avez ensuite sur la slide, qui n'est pas, je vous en parlais la dernière fois, à propos de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, je vais expliciter ensuite, mais le Conseil de l'Europe, ce n'est pas un organe de l'Union européenne, c'est un organe qui découle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui a institué plus exactement la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et que donc on laisse de côté quand on étudie le droit de l'Union européenne. Mettez-vous un spot sur vos prises de notes, peu m'importe. En gros, attention à bien distinguer Conseil de l'Union européenne et Conseil européen, tous les deux dans l'Union, et Conseil de l'Europe en dehors de l'Union. Une fois que j'ai précisé ça, qu'est-ce que c'est que le Conseil européen ? Sans doute que vous le connaissez juste pas forcément sous ce nom-là. Le Conseil européen, il est né de la pratique dans les années 70, à partir de 74, qui consiste à réunir régulièrement les chefs d'État des différents États membres de l'Union. Les réunions du Conseil européen, et ça vous l'avez peut-être déjà entendu dans la presse, lu dans la presse, etc., c'est ce qu'on appelle les sommets européens. Voilà. Les réunions du Conseil européen, c'est en fait les réunions récurrentes maintenant, ça a été institutionnalisé en 86, peu importe, c'est les réunions récurrentes des différents chefs d'État de l'Union. Quand vous aviez les grands sommets, Macron qui rencontre les chefs d'État de l'Union, c'est des sommets européens. En réalité, le nom exact, c'est des réunions du Conseil européen. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un organe législatif. C'est des réunions qui sont presque politiques, là pour le coup, de chefs d'État de l'Union. Donc, le Conseil européen est bien une institution de l'Union, mais n'a pas vocation législative. Le Conseil qui a vocation législative, c'est le Conseil de l'Union européenne. Alors là, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que vous conseiller le par cœur. Je ne le fais jamais, je vous ai dit, ne me faites pas de par cœur. Les trois noms, là, apprenez par cœur qu'il y en a deux dans l'Union, un hors de l'Union et les compétences de chacun. Voilà. Allez pas plus loin, hein. Mais sachez juste qu'il n'y a qu'un seul organe législatif sur les trois et qu'il y en a que deux sur les trois dans l'Union, ça sera déjà très bien. Donc ce qu'il faut retenir pour ce qui nous intéresse, nous, c'est que le Conseil de l'Union européenne, c'est l'un des deux grands organes législatifs. Il va élaborer les règles de droit qui sont adoptées au niveau de l'Union. Et il les élabore de concert avec la dernière institution qu'on va aborder maintenant, qui est donc le Parlement européen. Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans. Et la dernière élection, c'est mai 2024, évidemment, qui amène derrière le président de la République à faire revoter les Français sur une élection législative au regard de ce qui se dégage des élections européennes. Qui a pu voter aux européennes, là ? Qui n'a pas pu voter ? Parce que vous étiez trop jeune, hein, c'est ça ? Vous ne vous rendez pas compte de ça. Rigolez, mais vous allez voir. J'espère que vous donnerez des cours dans 10, 15, 20 ans et vous allez vous marrer. Bref, ceux qui ont voté, félicitations. Donc là, pour le coup, on est directement sollicité. C'est l'organe législatif pour lequel les citoyens des États membres sont appelés à voter. Et donc, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Certes, les règles, et donc notamment là, c'est très clair au niveau de l'Union, sont des règles supranationales, mais on a un mot à dire quand même. Quand on évoquait le Brexit en disant il y a des crises de souveraineté, etc., c'est une vision hyper tronquée et souvent par des partis un peu extrêmes de l'Union européenne. Oui, évidemment, la souveraineté change de forme parce qu'elle s'exerce à plusieurs, mais vous gagnez aussi en poids de manière considérable. Quand vous pouvez décider à 27 ou à 28, le poids n'est pas le même que quand vous décidez d'une législation tout seul dans votre coin. Je reprêche pour ma paroisse, mais parce que là, ça s'y prête bien. Autant vous dire que quand on fait du droit du numérique, quand il y a juste l'État français tout seul qui dit « Alors, à partir de maintenant, sur Internet, ça va se passer comme ça », le poids pour les autres États est proche de zéro, hein, dans un univers numérique qui, donc, a une vision particulière des frontières. Donc, l'intérêt de l'Union aussi, c'est de peser très fort à plusieurs États et d'avoir donc des législations qui ont un poids qui, après, même politique, par rapport aux autres États non membres de l'Union, est beaucoup plus grand. Le RGPD, certains en ont entendu parler ? À main levée ? Ouais, voilà. Bah, le RGPD, typiquement, c'est le grand règlement sur les données perso. Tout le monde a déjà fait autoriser ou ne pas autoriser les cookies sur un site ? À main levée ? Voilà, bon, bah, notamment c'est ça. Alors, les trois quarts des sites ne respectent pas. Mais ça fait partie des règles applicables et évidemment, ça a été une source, y compris d'inspiration pour les États étrangers. Je m'arrête là, mais donc ce qui m'intéresse ici, c'est que vous sachiez que, en fait, les règles européennes qui vont se construire, elles découlent, retenez le mot, de ce qu'on appelle un trilogue. C'est-à-dire, pardon, parce que la définition en elle-même ne veut rien dire, mais c'est pour expliquer, un dialogue à trois. Dialogue, c'est deux. C'est pour ça que quand vous dites deux personnes qui dialoguent, c'est une redondance absolue, parce qu'un dialogue, par définition, c'est deux personnes. Si elles sont trois, c'est plus un dialogue, c'est un trilogue. Les règles de droit européennes, elles sont adoptées à l'issue d'un trilogue. La Commission européenne propose, je vous ai dit, c'est elle qui a l'initiative législative, donc elle propose, et ensuite, le Conseil et le Parlement élaborent un texte qui, le cas échéant, devient derrière du droit dans les États. Voilà pour les institutions. Je laisse de côté la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Je ne peux pas faire les institutions judiciaires en plus, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps, donc vous verrez ça en IAJE. Ce qui m'intéresse, pourquoi est-ce que je vous ai présenté les institutions ? Pour que vous sachiez qui adopte les règles de droit qu'on va voir maintenant et qui font donc le... S'il vous plaît. Et qui font donc le droit de l'Union européenne. Pour comprendre ça, il faut décliner le droit primaire et le droit dérivé. Le droit primaire, c'est les traités fondateurs dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le traité de Rome, c'est l'acte unique européen de 86, c'est le traité de Maastricht, c'est le traité de Nice, c'est le traité de Lisbonne, etc. En gros, si vous voulez schématiser un peu, le droit primaire, c'est l'ossature de l'Union. Voilà. C'est le contenant. On va organiser les institutions qui, elles-mêmes, vont être en capacité d'adopter des règles de droit derrière. Le droit primaire, c'est ça. Donc, dans les traités fondateurs, vous avez l'organisation, le fonctionnement de la Commission, du Conseil de l'Union, du Parlement européen. Voilà. Ça, c'est le droit primaire. Ce qui m'intéresse surtout ici dans les règles de droit, c'est le droit dérivé. Comme son nom l'indique, et c'est pour ça que je voulais représenter comme ça et pas sur une opposition, le droit dérivé dérive du droit primaire. Pour expliciter un peu plus l'idée, c'est parce que le droit primaire offre une structure, notamment la structure du trilogue, qu'il est possible de créer des règles de droit. Et c'est en ça que c'est un droit dérivé du droit primaire. Voilà. Encore une fois, quand on parle de trilogue, on parle d'une conversation à trois, l'organe exécutif, qui est la Commission européenne qui propose, et les deux organes législatifs qui sont le Conseil de l'Union et le Parlement européen, qui eux mettent en œuvre et adoptent derrière. Ce droit dérivé, il représente une part importante des règles qui sont applicables en France. Alors je vous ai dit, c'est très difficile de chiffrer parce qu'on a tellement de règles que c'est compliqué, mais en gros, les études qui sont faites vous disent qu'il y a entre 20 et 30% des règles appliquées en France qui viennent de l'Union. C'est beaucoup, c'est pas considérable non plus. Quand on vous dit on perd toute souveraineté, en fait, ça veut dire que peu ou prou, vous avez 80% des règles qui viennent pas de l'Union. Voilà. Donc, ayez le chiffre en tête, c'est une estimation, il n'y a rien d'ultra précis, mais en gros, les études vous disent à peu près 20%, parfois entre 20 et 30. Quelles sont les formes différentes des sources ? Alors, il faut distinguer là. Vous avez des actes contraignants et des actes non contraignants. Si vous avez rebossé un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, vous savez que l'une des caractéristiques de la règle de droit, c'est précisément le caractère contraignant. Que n'est une règle de droit que la règle qui a force contraignante ? Donc ça veut dire que je vais vous expliquer aussi les actes non contraignants, que vous les ayez à l'esprit, mais que ces actes non contraignants ne sont pas par définition des règles de droit. Les règles de droit créées par l'Union, c'est juste les actes contraignants que vous avez sur les slides et qu'on va évoquer maintenant, c'est-à-dire règlements, directives, décisions. À 99%, vous allez bosser sur les règlements et les directives. Les décisions, elles sont beaucoup plus marginales, mais il faut savoir qu'elles existent. Donc, puisque la règle de droit est contraignante, ne sont des règles de droit que les actes contraignants de l'Union. Qu'est-ce que c'est que ces trois actes contraignants ? Comment est-ce qu'on peut les évoquer ? Alors, on commence avec le règlement européen. Qu'est-ce que c'est que le règlement européen ? Le règlement européen, il va vous introduire, donc dans chaque État membre évidemment, hein, ce qu'on appelle, je donne les expressions techniques, je les explique après, ce qu'on appelle des règles uniformes directement applicable. Donc le règlement européen, il introduit dans chaque État membre de l'Union des règles uniformes directement applicables. Pour le dire de manière triviale, ça veut dire que sauf cas exceptionnel, l'État français, enfin les États membres, pour nous ce qui nous intéresse l'État français, mais globalement les États membres n'ont rien à faire. Il n'y a aucune procédure à respecter, il n'y a aucune validation à apporter du règlement. Une fois que le règlement est là, il s'applique de facto dans tous les États membres de l'Union. Alors, en règle générale, il fixe une date d'entrée en vigueur, ce règlement. C'est assez rarement la date de la publication au journal officiel. Ça arrive, mais de plus en plus aujourd'hui, le règlement, vous allez avoir un article en général à la fin du règlement qui énonce la date d'entrée en vigueur dans les États. Voilà. Et en fonction de l'importance du règlement, on va vous laisser plus ou moins de temps pour préparer l'entrée en vigueur. Mais donc, un règlement, il arrive tel quel et il s'applique. Le cas échéant à la date d'entrée en vigueur qu'il a lui-même fixée, mais il s'applique. Et les États n'ont rien à faire. La directive maintenant. Et la directive, elle va nous permettre d'éclairer un peu aussi la notion de règlement qu'on vient de voir. Alors, la directive, elle a pour objet de fixer les objectifs qui doivent être atteints par les États membres. Donc elle fixe des objectifs, mais précisément elle laisse le choix aux États membres des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc elle fixe les objectifs, mais elle laisse les États libres de la façon dont il faut mettre en œuvre ses objectifs. La façon dont il faut créer des moyens pour atteindre ses objectifs. Et ça va commencer à s'éclairer un peu. Contrairement au règlement européen qu'on vient de voir, il n'y a pas d'applicabilité directe pour la directive. Souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit il y a une heure à propos du traité, en vous disant faites un renvoi à la directive parce que la directive, elle a besoin d'une intervention du législateur. Ben voilà, on y est. La directive, contrairement au règlement européen, n'est pas d'applicabilité directe. Elle ne s'applique pas directement. Elle a besoin d'un terme que vous allez rencontrer tout le temps à partir de maintenant, qui est une transposition. La directive, pour être applicable dans l'ordre interne, elle a besoin d'être transposée par le législateur français. Il faut que le droit français, les organes français, se saisissent de la directive pour lui donner corps dans le droit français, dans le droit interne. Autrement dit, il faut qu'on adapte nos législations internes pour nous mettre en conformité avec les exigences qui sont contenues dans la directive. Alors, comme toujours, vous allez voir que bon, c'est un truc qu'on vous recommande souvent en droit et auquel moi je suis particulièrement attachée. Je vous ai dit le par cœur, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à prendre le truc de vous poser les bonnes questions et que ça vous donne envie de réfléchir. Par cœur, encore une fois, c'est pas... Pourquoi ? Pourquoi on exige une transposition pour la directive et pas pour le règlement ? En réalité, c'est relativement simple. Le règlement qu'on vient d'évoquer, il vous fixe le but à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ses buts, à ses objectifs. Il fait les deux. Donc, il n'y a pas besoin de transposer. En fait, si on dit les choses autrement... Puisque le règlement a tout fait, il a déterminé les objectifs à atteindre et il a déterminé les moyens à mettre en œuvre, qu'est-ce que vous voulez que le législateur français intervienne ? Il n'y a plus de travail à faire, en fait. Je schématise, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le règlement fait tout, donc il s'applique directement. On n'a pas besoin de précisions supplémentaires. La directive, elle, c'est pas pareil. On vient d'expliquer que la directive, elle, certes, elle fixe aussi les objectifs à atteindre, mais elle laisse les États membres libres pour fixer les moyens pour y parvenir. Donc là, en fait, on a une espèce de passage de relais obligatoire. La directive n'a fait que fixer le cadre général à atteindre. Et après, chaque État membre va décider que dans sa législation, le mieux pour atteindre cet objectif-là, c'est de fonctionner comme ça, de poser telle règle. Les objectifs sont les mêmes, les moyens pour atteindre ces objectifs, eux, ils peuvent varier. Et donc, ça explique que pour un règlement, on n'a pas besoin de transposition, que par contre, pour une directive, puisqu'il y a une marge de manœuvre qui a été laissée aux États pour définir les moyens, alors on est obligé d'avoir une transposition. Ce passage de relais-là, il est absolument essentiel. D'où une autre question qui se pose. Pour le règlement, il n'y a pas de difficulté. On a dit, en fait, il entre en vigueur dans les États, soit à la publication au JO, ou le lendemain de la publication au JO, soit à la date qu'il a fixée dans un de ses articles. Donc sur les règlements, il n'y a pas de souci. Sur la transposition, les directives vont contenir des articles dans lesquels, à la fin généralement des directives, en règle générale, vous trouvez un article qui vous dit « les États membres ont jusqu'au... » On est le combien ? 9. « Les États membres ont jusqu'au 10 septembre pour transposer la directive. » En admettant que c'est une directive qui a 6 mois, hein, évidemment. Qu'est-ce que je fais si mercredi matin, elle n'a pas été transposée, ma directive ? Elle n'est pas par principe d'applicabilité directe. Et le législateur ne me l'a pas transposée dans les temps. Mais sauf que moi, justiciable, je suis dans un contentieux où j'ai besoin de l'application de la directive. Elle me sauve, cette directive-là. Pourquoi est-ce que je suis tributaire de mon législateur qui n'a pas fait le job ? Ne me l'écrivez pas comme ça, c'est juste pour vous schématiser l'idée. Si on le dit techniquement, la directive n'a pas été transposée post-date limite de transposition. On a laissé passer le délai. Vous vous doutez bien que passer le délai, si on continue à dire au justiciable « Ah bah nous, on est désolé, mais on attend toujours un législateur qui ne vient pas. » C'est, pour les justiciables, pas une solution équitable, pas une solution juste, et c'est surtout, et je crois que c'est ça l'argument décisif, c'est pour les États membres un coup génial pour échapper aux transpositions qui ne les intéressent pas tant que ça, et auxquelles ils étaient opposés. « Oh bah je suis désolé, moi j'ai laissé filer le délai, donc chez moi la directive elle ne s'applique pas parce que je n'ai pas transposé. » Et là, vous n'avez plus d'harmonisation si chaque État peut faire comme ça. Donc, pour revenir à un vocabulaire technique, pour éviter de réduire quasiment à zéro l'efficacité des règles qui sont dans les directives en permettant aux États de ne pas transposer, la règle, c'est de dire que la directive, je le dis dans un langage technique, je réexplique ensuite, la directive qui n'a pas été transposée dans les temps, dans l'ordre interne, acquiert effet direct, applicabilité immédiate, passé cette date. Jusqu'à la date limite de transposition, vous êtes obligé d'attendre l'intervention du législateur. Le lendemain de la date, nous on a donné là dans notre exemple la directive fixée au 10, si mercredi quand on se retrouve le 11, la directive n'a pas été transposée, elle devient d'applicabilité directe. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir un juge en disant « le délai est passé ». Donc vous l'appliquez en mettant en œuvre les moyens que vous voulez dans mon contentieux, mais je veux bénéficier des règles de la directive. Elle est devenue d'applicabilité directe si elle n'a pas été transposée à la date de transposition qui était prévue. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Ok. Donc voilà pour les règlements et les directives, encore une fois, c'est celles que vous allez trouver quasiment essentiellement, je dis un mot des décisions, mais c'est beaucoup plus marginal. Il y a donc une troisième catégorie d'actes contraignants, qui est donc la catégorie des décisions. La décision, elle vient réglementer des situations particulières. Elle va viser expressément ses destinataires. Elle est plus générale et impersonnelle du tout, pour le coup. Vous allez avoir, par exemple, en matière d'abus de position dominante en droit de la concurrence. On va constater un abus de position dominante et l'Union européenne va rendre une décision qui sanctionne telle et telle société pour abus de position dominante. Donc vous voyez, elle est très particulière parce qu'elle n'est pas du tout générale et impersonnelle. Elle vise au contraire précisément ses destinataires et ça explique aussi que parce qu'elle est vraiment visée ponctuelle, vous la rencontriez beaucoup moins souvent que des règlements et des directives. Mais sachez simplement que dans les actes contraignants de l'Union, il n'y a pas que les règlements et les directives que vous allez étudier tout le temps, il y a aussi les décisions. Ensuite, un mot sur les actes non contraignants. Je vais très vite, puisqu'encore une fois, par définition, ce n'est pas des règles de droit, mais simplement pour que vous sachiez ce que l'union produit. Donc, puisqu'il n'y a pas de force contraignante, il n'y a pas d'obligation juridique qui en découle, mais ces actes contraignants, ils peuvent être utiles pour vous, ces actes non contraignants, pardon, ils peuvent être utiles pour vous. Alors, ils peuvent prendre plusieurs formes, des résolutions, vous les avez au tableau, hein, des déclarations, des accords, des recommandations, des codes de conduite, des positions communes, il y a plein de choses. Là où c'est intéressant pour vous, c'est un peu tôt, encore que, mais il faut savoir que ça existe. L'Union européenne produit beaucoup de documents quand elle élabore des règles de droit. C'est-à-dire que vous allez trouver un certain nombre d'outils qui n'ont pas force contraignante, qui ne sont pas eux-mêmes des règles de droit, mais qui vont vous expliquer. Alors, vous pouvez avoir des livres verts. Les livres verts, ils vont faire état d'un débat, de nécessité de voir une loi intervenir, une directive intervenir. Le livre vert, il lance le débat, en quelque sorte. Vous allez avoir des livres blancs qui proposent des solutions. On appelle ça comme ça, hein, des livres blancs, des livres verts, des rapports, des communications, des propositions, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est ce qu'on appelle des actes préparatoires, au sens d'actes préparatoires aux règlements et aux directives qui vont venir, par exemple. Et parfois, quand on a du mal à saisir le sens d'un article dans une directive ou dans un règlement, ça peut être extrêmement utile d'aller lire les travaux préparatoires. Parce qu'en fait, les travaux préparatoires, donc ces livres blancs, ces livres verts, ils vous montrent un peu ce qu'il y a derrière le décor. Ils vous expliquent le débat, parfois même en termes pas du tout juridiques, avec une approche sociologique, économique, de la situation. Et donc, en consultant ces outils-là, qui encore une fois ne sont pas des forces, n'ont pas de force contraignante, mais vous aident à interpréter les actes qui, eux, ont force contraignante, allez lire les livres blancs, les livres verts, les travaux préparatoires, les rapports, y compris au niveau de l'Assemblée. Dans 5 minutes, on va se mettre à parler de la loi. Consultez les travaux préparatoires. Maintenant, en ligne, vous avez presque tout accessible directement. Quand vous avez une galère sur un texte, allez consulter les travaux préparatoires. Parfois, un texte incompréhensible à la lecture, parce qu'on est de plus en plus fort pour ça et pour faire des textes hyper techniques qui sont difficilement accessibles à la compréhension, le fait d'aller lire les travaux en amont, ça vous aide énormément à comprendre ce que le législateur a voulu dire. Et donc, c'est des outils précieux après quand vous devenez professionnel aussi. Pour convaincre un juge que l'article que vous invoquez, il est bien dans votre sens et il va bien dans votre sens, appuyez-vous. En disant, on voit bien là, dans les travaux préparatoires, le législateur, c'était bien son intention que la réponse soit blanc ou noir. Voilà. C'est pas, encore une fois, des règles de droit, mais c'est des outils d'analyse qui sont extrêmement précieux. On s'arrête là avec le droit de l'Union européenne et on passe donc à la troisième catégorie des règles de droit supranationales et supralégislatives, puisque celles-là, elles sont les deux, qui est donc le droit du Conseil de l'Europe. Ça fait l'objet d'un petit C. Petit c, le droit du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est une création du 5 mai 49. Et l'objectif affiché de ce Conseil de l'Europe, c'est de favoriser un espace démocratique et juridique commun en Europe. D'élaborer, de construire, de favoriser un espace démocratique et juridique commun en Europe. À la source, il y a 10 pays signataires en 49. Maintenant et depuis 2 ans, il n'y en a plus que 46. On était 47 jusqu'en 2022, mais la Russie a été exclue. Donc aujourd'hui, on a 46 pays signataires. Je vous disais la dernière fois, on y revient donc ici. Le droit du Conseil de l'Europe, il est différent du droit de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a 27 membres maintenant. Le Conseil de l'Europe, il a donc une dimension beaucoup plus grande. Les 27 membres de l'Union sont tous dans le Conseil de l'Europe, donc ça se chevauche. La totalité des membres de l'Union européenne sont dans le Conseil de l'Europe, mais vous voyez bien qu'on est 46, donc on va bien au-delà des 27. Donc le Conseil de l'Europe a ce qu'on appelle une dimension pan-européenne.
c'est le continent européen presque au sens géographique large du terme, et pas juste l'Union. Objectif principal de ce droit du Conseil de l'Europe, pardon, c'est la protection des droits fondamentaux de l'individu. Évidemment, à cet égard-là, la date est un indice. On ne se situe pas très tard après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a une volonté politique commune de prendre toutes les précautions juridiques possibles pour que ça ne puisse plus se reproduire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On adopte un grand texte en 1950 au sein du Conseil de l'Europe, qui est un texte dont je vous ai déjà parlé, qu'on retrouve ici, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est un texte que vous allez rencontrer tout le temps. Signé en 1950, entré en vigueur en 1953. Cette convention-là, elle a une efficacité très grande, d'autant plus qu'elle est dotée d'une juridiction que vous aborderez aussi en IAJE, mais donc faites le lien, vous ferez un renvoi pour avoir les explications dans votre cours d'IAJE. Il existe une cour qu'on a déjà brièvement évoquée, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on appelle généralement sous l'acronyme de CEDH, hein, et qui est une cour qui peut sanctionner des États pour non-respect des droits fondamentaux de leurs ressortissants. C'est pour ça que, quand vous allez lire des arrêts de la CEDH, les arrêts s'appellent « Monsieur Machin contre France »,« Monsieur Y contre Allemagne ». Parce qu'en fait, les ressortissants poursuivent leurs États pour non-respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, est compétente pour sanctionner les États eux-mêmes. Donc c'est très particulier. Je ne rentre pas dans le détail, on la retrouvera un peu par la suite, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle consacre une liste très importante de droits et libertés fondamentales. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture dont on parlait tout à l'heure, l'interdiction de l'esclavage, le droit à la liberté, le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression, le droit de la liberté de la presse, le droit de conscience religieuse, la liberté d'association, etc. N'apprenez pas la liste par cœur, ça ne sert à rien. Ayez juste à l'idée que c'est un spectre très large qui couvre la protection de l'individu, dans sa conscience, dans son individualité et dans le respect de son corps aussi, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, etc. Il y a une double dimension en fait de protection de l'individu dans ces textes-là, systématiquement, la protection de l'intégrité corporelle et la protection de l'intégrité psychique. C'est deux choses différentes. Et ça se dédouble et c'est deux faces d'une même médaille. Hein. La protection de l'individu, elle s'entend aussi bien de la protection de son intégrité psychique que de la protection de son intégrité corporelle. Voilà. On en termine donc avec les sources supralégislatives. Sources supralégislatives, autrement dit ayant une valeur supérieure à la loi, dont vous avez donc bien compris maintenant qu'elles peuvent être internes, nationales, et là c'est quelle source ? La Constitution, très bien, qui est une source interne supralégislative, et qu'elles peuvent aussi être supranationales, ces sources supralégislatives, c'est le cas des traités, du droit de l'Union européenne et du droit du Conseil de l'Europe. Toutes ces règles-là se voient reconnaître une valeur supérieure à la loi. C'est pour ça qu'on parle de règles supralégislatives. La Constitution tout en haut d'abord, on verra la pyramide mercredi. Les traités, l'Union européenne, le droit du Conseil de l'Europe en dessous. On commence à y voir un tout petit peu plus clair dans ce panorama des règles et dans cette hiérarchie qui commence à se dessiner. Reste, et la tâche n'est pas aisée évidemment, à comprendre ce qu'est la loi dont on parle depuis le début, la loi qu'on envisage en tant que source du droit. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est sans doute la plus connue des règles, en tout cas c'est celle qui vient le plus spontanément à l'esprit. Pour autant, elle est souvent très mal connue. C'est normal, là encore, c'est pas un reproche. Si vous arriviez en sachant déjà tout, on ne servirait à rien. Mais c'est mal connu, c'est mal défini, et notamment le caractère un peu polysémique de la loi est souvent mal compris. Il y a plusieurs définitions de loi, en fait, du terme de loi selon le prisme qu'on aborde. Et on peut d'abord envisager un petit 1 sur la définition générale et la distinction avec le règlement. Définition générale et distinction avec le règlement. Ouais, je vous empêche plus de prendre les photos parce que je suis plus compétente pour vous dire quand est-ce que je posterai. Donc, si ça vous rassure, prenez des photos. Mais encore une fois, je ne vous mens pas. Les slides, vous les aurez soit cette semaine, soit si vraiment c'est galère la semaine prochaine, mais ça ne sera pas plus tardif que ça. Un petit 1 d'abord donc sur la définition générale et la distinction avec le règlement. Je vous embête encore avec l'étymologie, mais parce que l'étymologie souvent renseigne sur le sens des mots. Le terme loi vient du latin lex, qui vient lui-même du verbe lego. Pas d'accent sur le latin jamais, par pitié. Donc lego, L-E-G-O. Et là où ça devient intéressant, c'est que le verbe lego, ça peut être à la fois l'infinitif de légare et de légare. Légare, ça s'écrit L-E-G-A-R-E. L-E-G-A-R-E. Et légare, ça s'écrit L-E-G-E-R-E. Légare, ça veut dire lier. Et légare, ça veut dire lire en latin. Donc lex, le terme loi vient de lex, qui lui-même vient de lego. Et lego, en fait, c'est deux verbes différents. Soit légare, soit légare. Légare, c'est lire. Légare, c'est lier. Bon, eh ben, la loi, c'est à la fois le texte qui lie au sens d'une contrainte. Je suis lié par ce texte-là. Donc, c'est un lien au sens de contrainte. C'est le texte qui lie, L-I-E. Et tout texte écrit, c'est nécessairement une forme écrite. C'est un texte qui doit être lu, au sens de lire. Et en fait, l'étymologie, elle vous indique quasiment la définition exacte de la loi. C'est le texte écrit qui va contraindre. La définition générale, globale de la loi, c'est ça. Une source écrite, contraignante. Et vous l'avez dans l'étymologie. Je sais que pour certains, ça passe comme ça. L'étymologie latine, grecque, c'est encore pire. Faites-moi confiance. Parfois, c'est très utile. Parfois, ça ne vous servira à rien. Alors, ça ne vous servira à rien d'autre qu'une culture personnelle qui n'est quand même pas négligeable, mais ça ne vous apportera rien de précis à la réflexion. Parfois, y compris sur une dissertation, quand la définition du terme est particulièrement complexe, ouvrez un dictionnaire d'étymologie. Regardez sur Google l'étymologie du terme, peu m'importe le média, mais croyez-moi, ça peut être extrêmement utile. Donc voilà pour la double signification. Une norme écrite qui contraint, qui lie au sens de lier. Et vous avez aujourd'hui dans le terme de loi une double réalité. Une approche formelle, en quelque sorte, c'est-à-dire la loi au sens de la procédure d'élaboration. C'est les questions de compétences, qui est compétent pour créer la loi, etc. Et puis, en parallèle de ce sens formel, vous avez un sens matériel. Et dans ce sens matériel, pour le coup, on n'envisage plus le mode d'élaboration, mais le contenu de la règle elle-même. Et ces deux aspects se complètent. La loi, elle se définit à la fois dans un sens formel et dans un sens matériel. Dans les deux hypothèses, par ailleurs, que ce soit pour définir le sens formel ou le sens matériel, la distinction avec le règlement, elle est absolument essentielle. Je commence un peu le sens formel et on fait la pause ensuite. Un petit A donc sur le sens formel. Petit A, le sens formel. Pour qu'on comprenne bien, pour que vous compreniez bien ce qu'est la loi au sens formel du terme, il faut envisager la loi par rapport au règlement. Si j'avance un tout petit peu, je spoil, mais c'est pas grave. Voilà. On est là dans le bloc de l'égalité, puisqu'on envisage la loi. Et on va l'opposer, la loi, au règlement qui est tout en dessous. Ce qui me permet de vous dire, faites attention, vous l'aurez aussi, les slides, je ne les ai pas faites pour moi. Hein. Je l'ai fait le dimanche soir, donc autant vous dire que c'est... Voilà. C'est pour que vous les ayez à terme. Hein. Je ne les fais pas pour mon plaisir perso. Ce qu'on va envisager là, quand je vous parle de la loi par opposition au règlement, vous me le mettez en énorme. Le règlement qu'on envisage ici dans la partie sur la loi n'a rien à voir avec le règlement européen. C'est pas la même chose. C'est le règlement au sens du bloc réglementaire. Voilà. C'est en gros les actes du pouvoir exécutif. Je vais vous expliquer dans un instant, mais c'est ça. Les règlements européens, eux, si j'anticipe sur ma hiérarchie des normes, mais c'est pas très grave, ils vont aller dans le bloc de conventionnalité. Bloc de conventionnalité, c'est tous les traités, le droit de l'Union européenne, le droit du Conseil de l'Europe. Donc, si je résume, là, bloc de constitutionnalité tout en haut, vous savez ce que c'est. Bloc de conventionnalité, vous savez ce que c'est aussi, c'est les traités, le droit du Conseil de l'Union et l'Union européenne, le droit du Conseil de l'Europe, pardon, et le droit de l'Union européenne. Maintenant, on voit le bloc de l'égalité, et pour comprendre le bloc de l'égalité, j'oppose au règlement. Je ne devrais pas avancer sur mes slides, mais c'est plus clair comme ça. Je rappelle brièvement ce que vous avez déjà dû voir et ce que vous aborderez sans doute de toute façon en droit constit par la suite. La loi relève du pouvoir législatif, de la compétence du pouvoir législatif. Le règlement, c'est-à-dire les actes qui sont dans le bloc réglementaire qu'on vient de voir, relève de la compétence du pouvoir exécutif. La Constitution de 58 a renforcé cette distinction entre la loi et le règlement. Très fortement. Avant la Constitution, alors avant la Constitution de 58, hein, donc on était sous la Constitution de 46, mais avant la Constitution de 58, il y avait un monopole quasi absolu pour la loi. Elle était compétente partout et le règlement était finalement là juste pour donner des petites précisions parcellaires sur la loi. Voilà. Schématiquement, pour apprendre, en habillant ça après dans les copies, mais l'idée c'est que la loi, elle règne en maître avant la Constitution de 58, il y a quasiment qu'elle, et le règlement a en fait de domaine de compétence quasiment nulle part. Il est là pour combler les petits trous, préciser un peu la loi, mais c'est juste une logique de relais et il n'a pas de compétence personnelle. À partir de 58, les choses changent, et à partir de la Constitution de 58, chacun a désormais son domaine propre. Il y a un domaine pour la loi, un domaine pour le règlement. Pour ce qui est du... Je vais revenir là-dessus, hein, par la suite, vous aurez un schéma là-dessus. Pour ce qui est du critère formel de la définition, la loi, c'est le texte écrit voté par le Parlement. Voilà. C'est le Parlement qui est l'organe d'élaboration de la règle de droit légal, donc de la loi. Et plus spécifiquement, la loi va s'imposer comme le fruit d'une collaboration. Quand je dis elle est votée par le Parlement, c'est une collaboration entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le couple, le duo Assemblée nationale-Sénat compose le Parlement. Si j'inverse, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc l'élaboration de la loi, quand je dis c'est un texte voté par le Parlement, ça veut dire, on a vu le trilogue à propos des institutions européennes, là vous avez un dialogue qui s'opère entre les deux institutions législatives, nos deux institutions législatives internes, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Ceci dit, l'impulsion peut aussi venir du pouvoir exécutif chez nous. C'est l'occasion de faire un encart de vocabulaire. Proposition de loi et projet de loi, ce n'est pas tout à fait des synonymes. Vous parlez d'une proposition de loi quand la proposition émane d'un parlementaire, un député ou un sénateur. Dans ce cas-là, on parle de proposition de loi. Si on vous parle de projet de loi, c'est que la proposition émane cette fois-ci de l'exécutif. C'est le gouvernement qui propose. Et après, évidemment, c'est le Parlement qui discute. Mais donc, vous voyez bien que dans cette deuxième branche de l'alternative, le projet de loi, donc qui provient du gouvernement, bah, on n'est pas très loin de ce que je vous disais à propos du trilogue. C'est la commission qui est le pouvoir exécutif et qui proposait aux deux autres qui discutent. Bah finalement, sur un projet de loi, alors sur une proposition de loi, pas du tout, mais sur un projet de loi, bah c'est rigoureusement la même chose. Le pouvoir exécutif qui suggère une réflexion qui est menée par les deux instances législatives que sont chez nous le Sénat et l'Assemblée nationale. Essayez, je sais que c'est facile à dire, je sais que j'ai beaucoup plus de bouteilles que vous et que vous commencez, mais quand vous apprenez le cours, essayez d'apprendre comme ça. Faites des liens logiques, essayez de voir que... Et c'est pour ça que ça me rend dingue quand on vous dit que le droit, c'est du par cœur. Et qu'on vous fait payer des sommes monstrueuses pour aller dans des prépas privés qui, pour l'essentiel, ne servent à rien, je vous le dis tout de suite. Et qui vous font bachoter comme ça en apprenant par cœur. Faites pas ça.
Il y a des trucs que vous serez obligé d'apprendre par cœur, des termes, etc. Mais dès que vous pouvez vous détacher du par cœur, faites-le. Ça se saurait si les bons juristes, c'était ceux qui bachotaient tout le temps et qui connaissaient les textes par cœur. C'est pas comme ça que ça marche. Faites des liens logiques. Moi, j'essaye à ma petite échelle. Vous constatez que par ailleurs, en termes de visuel, je suis absolument nulle. Voilà, c'est vraiment pas mon truc, mais c'est pour vous dire comment on peut faire des schémas. Faites des schémas pour apprendre. Et vous allez voir par la suite, quand on va expliquer les contrôles, quand on va faire l'application de la loi dans le temps, si vous apprenez par cœur, vous vous planterez. Voilà. Et sur ce que je dis sur les prépas privés, si certains sont inscrits, tant mieux pour vous. Si d'autres peuvent pas le faire, pas besoin d'une prépa privée pour réussir. Voilà. C'est plus dur parce que vous êtes moins accompagné. En même temps, ça vous rend plus autonome. Donc là-dessus, il faut se détacher un peu de ça aussi. En tout état de cause, écoutez pas. Et ça, tant pis si après c'est ressorti. Je n'ai pas de problème avec ça. Vous voyez peut-être passer les influenceurs juridiques. Il y a Jurixio notamment parmi les plus connus. Ne tombez pas dans le panneau. Vraiment, non mais là-dessus j'insiste parce que les démarches sont, si je le dis entre nous, en essayant de me censurer au maximum, vraiment pas très jolies. Voilà. Lui et d'autres, hein, je le cite parce que c'est sans doute celui que vous connaissez le mieux. Vous n'avez pas besoin de ça. Il n'est pas prof hein, par ailleurs. Il n'est pas prof, il n'est pas maître de conf, c'est pas un enseignant-chercheur. Voilà. Il se décrit comme ça, mais ils se décrivent souvent comme ça. Ne vous laissez pas avoir. Payez pas 40 balles pour un contenu que vous aurez quand vous assistez à l'amphi ici gratuitement. Enfin, gratuitement, vous avez payé vos frais d'inscription, mais après, c'est basta. Ça ne sert à rien. Voilà. Et en tout cas, ceux qui ne peuvent pas le faire et qui se disent « je vais me planter parce que je ne peux pas », croyez-moi, Agnette, on est quand même un certain nombre à être encore convaincus du service public de l'université et d'être en capacité de pouvoir, sans avoir recours à un service privé par ailleurs, vous former comme étant des juristes. Vous n'avez pas les sous, vous allez un peu plus galérer pour plein de raisons. On se sort de ça. Voilà. C'est pas marrant, c'est clairement, c'est pas marrant. Mais ne vous dites pas que parce que vous ne pouvez pas vous payer je sais pas comment ils appellent ça, les packs rentrées professionnelles, etc., vous allez vous planter. Niet, ça sert à peu près à rien. Ma petite parenthèse de contre-pub ayant été faite, vous voyez bien là, du coup, qu'il y a un intérêt à raisonner en miroir. Ce qu'on a expliqué à propos du trilogue, alors c'est pas véritablement un trilogue, mais on voit que c'est un peu le même fonctionnement sur un projet de loi. L'initiative vient de l'exécutif. La discussion, pardon, se fera sur les organes législatifs. On s'arrête là, 10 minutes, et je vous explique après comment la loi est adoptée entre les institutions.